m'a fait ça, je ne sais pas. Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous pour cette dernière émission. Les portes du club s'ouvrent une dernière fois avant l'été. Quoique, on va être là présent avec mon ami Arnaud Magnier pour parler de ce livre Vacances. On n'est pas là pour en parler cette fois-ci. On est là pour accueillir une dernière fois celles et ceux que l'on aime dans cette émission avec une actualité riche et chargée. Je salue déjà l'équipe du club qui est à mes côtés, Arnaud Magnier et Lola Moreau qui sont là et que je suis très content de retrouver. Oui, Lola, c'est celle qui est à côté d'Arnaud qu'on ne voit pas derrière. Cet homme tout en muscles. Et Lola qui va nous accompagner comme elle le fait depuis le début de cette année avec des recommandations de livres pour l'été. Et ça va être formidable. Et nos invités qui sont en plateau, on va beaucoup parler aussi de livres avec un livre événement qui va sortir en fin d'année, qui part en financement participatif. Ça y est, là il y est. Et je crois que ça se passe pas trop mal. Ça s'appelle Les Aventures de Terence Hill et Bud Spencer. Bud Spencer et Terence Hill, il me semble. Oui, c'était en ce sens-là. Bref, les rois du western spaghetti, les rois des tartes dans la tête à coups de main plate qui te désossent la mâchoire pendant 1h30. On les a aimés dans les années 70. Évidemment, il y avait tellement à dire. Et on s'est adressé au meilleur pour le faire. La meilleure édition, Pulse Édition, et puis le meilleur auteur qui connaît le cinéma. Philippe Lombard, je suis ravi d'accueillir.
Je suis ravi d'être là.
Merci Philippe. On va parler de ce livre dans un instant. On va commencer à en reparler parce que je pense qu'on essaiera de le rementionner à la sortie. Je salue aussi pour celles et ceux qui aiment la télé que Philippe a signé ce livre. Ça tourne mal à la télévision, à la télé en tout cas, avec plein d'histoires. On va peut-être en dire un mot tout à l'heure sur toutes les séries, les tournages qui s'avortent, les comédiens qui font des crises. Bref, plein de belles choses dans ce livre-là. À côté, c'est quelqu'un qu'on est toujours ravi de recevoir parce qu'il répond toujours présent et on est toujours heureux de l'avoir. C'est un ami de la loi des séries du club et là, il nous revient pour un nouvel album qu'il vient de sortir là, il y a quelques jours. Il est tout chaud, les gens se précipitent sur lui dans la rue pour l'accueillir. Jean-Paul Césari. Évidemment, iconique interprète de bon nombre de tubes, de génériques, de séries et de dessins animés. Et il y a des petites pépites là-dedans.
Oui.
On va le voir dans ce très bel album. Et beau gosse pour l'été quand même, hein. Jean-Paul Césari.
Ah, tu sais, maintenant, les photos, ça se retouche. Hein.
J'en sais quelque chose, t'inquiète pas, c'est comme ça qu'on s'arrange. Mais on est ravis de t'accueillir. On va parler de ce disque. On a pu te faire venir pour cette dernière émission de la saison. Je suis ravi que tu sois avec nous. Enfin, c'est une autre de nos amis. Vous la connaissez, jeune génération, évidemment. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, ça tombe bien parce qu'elle aussi, elle vient de sortir en précommande, un agenda pour la rentrée. Elle est avec nous. Merci au fait d'être avec nous encore une fois. On est ravis de te retrouver. On a plein de choses à se dire, plein de petites surprises. Et tiens, on va commencer par une petite avant-première, un petit exclu pour les amateurs de dessins animés des années 80. Je vous montre un générique et puis on en parle juste après. Regardez si ça vous parle et si ça vous dit quelque chose. Mais ça va forcément parler parce que c'est aussi lié finalement à Croque-Vacances. Regardez.
Ah, allons-y.
J'ai découvert le livre de bord du capitaine Ortega dans un monastère qui surplombe la mer. Le 15 février de l'an 1934, le capitaine jeta l'ancre dans une baie mystérieuse. Et au cours de la nuit, il fut attaqué par des pirates. Le bateau s'abîma dans les flots. Le capitaine fut miraculeusement rejeté sur la plage avec son livre de bord sur lequel il avait eu le temps de noter qu'il avait découvert un monde sous-marin peuplé d'êtres minuscules. Personne ne voulut le croire. Mais il y a quelque chose dans ce livre qui me fait penser que le capitaine Ortega n'avait pas rêvé.
Kikiki sont les snorkies, kikiki meki. Kikiki sont les snorkies, de super amis.
Bon, évidemment, ça te parle, hein, c'est dès dans Croque-Vacances,
évidemment
oui. Arnaud. Je vous annonce une nouvelle et je remercie nos copains de Télé 80 de nous avoir donné cette information. C'est le prochain volume de Télé 80 qui va sortir, la bande originale du dessin animé Les Snorkies qui va sortir là en ce mois de juillet et qui va partir en précommande. Donc voilà, on voulait les accompagner parce que certainement qu'au moment où ils vont l'annoncer, nous ne serons plus là. Mais on voulait vous annoncer donc que ce sera Les Snorkies que vous redécouvrirez après... d'autres bandes originales qui ont été proposées dans cette collection depuis maintenant une quinzaine d'années. Dans un instant, on va évidemment revenir sur les aventures de nos deux pros de la tatane dans la tronche avec notre invité Philippe Lombard. Mais peut-être que pour ce pour se mettre dans l'ambiance, nous on découvrait évidemment tous ces films grâce notamment à une chaîne qui s'appelait La 5, et on va voir peut-être un petit teasing de ce qui se passait à l'époque sur La 5. Regardez, ça ressemblait à ça.
Demain soir, maintenant on l'appelle Plata. En pleine forêt amazonienne, un filon en or. Mais avant de se faire des pépettes, Bud Spencer et Terence Hill devront extraire les pépites. Mercredi, cœur en sursis. La vie, l'amour, la mort. La mère, c'est Liza Minnelli. Son rôle, continuer à sourire devant son enfant, atteint de myopathie. Jeudi, la fille en rouge.
Ça sent abrupt, ouais.
Voilà. Et voilà. Ces bandes originales de La 5, ces bandes annonces de La 5, moi j'adorais, enfin, ça donnait tout de suite envie quoi.
Ouais, je suis allé fouiller un petit peu dans mes archives télévisuelles, vous savez qu'entre autres, j'adore numériser les vieilles cassettes des années 80 surtout, parce que 70 c'est plus dur à trouver, et je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit clin d'œil à Philippe, de ressortir un Bud Spencer et Terence je suis pire que toi.
C'est pire que moi.
Et Terence.
Et Dieu sait que pourtant il faut s'accrocher. Hein.
Et bah oui, voilà, La 5, c'était un des slogans, c'était La 5 tous les soirs un film, mais bon, précisez pas que c'était forcément un téléfilm ou pas forcément un truc sorti au cinéma. Voilà.
Pas forcément un truc que quelqu'un va envie de voir. Bah, tout
mais,
court,
non, mais quelque part, c'est ça qui était génial parce qu'on pouvait s'attendre à tout et n'importe quoi. Il y avait souvent les deux.
Mais c'est comme ça qu'on a découvert notamment les films de Terence Hill et Bud.
Ah, bah oui, oui, c'était un grand rendez-vous. Enfin, tu nous
oui, bien sûr.
C'est comme ça que tu l'as découvert, toi?
Non, parce que je suis plus vieux, donc j'ai découvert ça au cinéma déjà dans les années 70. Donc j'ai vu ça. Je crois que le premier que j'ai vu, ça doit être en 80, un truc comme ça, au cinéma. Ouais. Et en 82, les Trinita sont ressortis et je les ai découverts à ce moment-là.
Et Plata, je crois que c'est le troisième volet, c'est ça des c'est pas ce...
Alors, Plata, ça arrive après Trinita, c'est-à-dire qu'ils arrivent.
On l'appelle Trinita, on continue de l'appeler Trinita et maintenant on l'appelle Plata, c'est ça?
C'est ça, mais il n'y a pas de rapport en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait trois westerns, un film de pirate, deux Trinita, et après, ils auraient pu faire un troisième, un quatrième, un cinquième Trinita parce que ça marchait du feu de Dieu, ça a un peu révolutionné le western italien puisque ça partait vers la parodie. Mais en fait, ils ont décidé de faire des films contemporains. Bon. Donc de partir, de quitter le western et de faire
les super flics, Q et Schmid,
voilà, Superflic, tout ça, voilà quoi.
Q et Schmid. On va voir d'ailleurs, j'essaierai de savoir, toi, c'est quoi ton film préféré de Terence Hill? On en reparle dans un instant, mais alors attends, par contre, je crois que on a un petit souci, on va avoir un petit souci en régie. Tout se passe bien, c'est bon au niveau des vidéos, tout va bien. Bah écoute, tant pis, lance la prochaine vidéo, on verra bien s'il y a un lien. Vas-y, relance. Non, la prochaine.
Ma très chère Lola, ça y est, c'est la dernière de la saison. On voulait avec l'équipe te dire bravo pour cette année riche en chroniques littéraires, riche en mémoires terminées, riche en chroniques de radio. Je voulais prendre ce petit moment pour te dire à quel point je te trouvais formidable. Vraiment, il y a une sincérité dans ta manière de parler des romans, des livres, une spontanéité aussi. Tu es solaire et c'est toujours extrêmement agréable de t'écouter parler des romans, parler des personnages. Tu nous fais voyager à chaque fois. Moi, j'adore écouter tes chroniques parce que c'est toujours un moment et agréable et avec une profondeur, avec une authenticité. Donc, je voulais prendre ce petit moment pour te dire merci pour tout ce que tu fais. Continue à nous faire du bien en nous parlant de littérature. On en a tant besoin aujourd'hui. Et je te souhaite un très, très bel été. Et à très vite.
Waouh. Et ben voilà. On va voir apparaître la pochette d'un livre parce que c'est un livre que tu as chroniqué il n'y a pas longtemps. Souviens-toi des abeilles de Zineb Mekouar, qui devait être avec nous mais qui ne pouvait pas parce que voilà, elle était occupée à l'étranger, qui ne sera avec nous à la rentrée. Mais voilà, on a essayé de capter ça
beaucoup.
Pour ce petit moment de fin de fin d'année.
Et merci à elle parce que ça a été une de mes plus belles rencontres dans le milieu littéraire. Ça fait vraiment pas longtemps. Je l'avais rencontrée sur un festival à Montaigu. On s'était parlé au détour d'un stand et après on s'est revus au Festival du Livre de Paris. Et non seulement c'est une autrice qui est absolument extraordinaire, qui a des livres, celui-là il est juste magnifique, Souviens-toi des abeilles, et c'est une personne absolument géniale. Donc ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup.
Tu verras le petit message, tu pourras le garder pour toi.
Merci.
Et tu l'auras pour toi. Voilà, je l'embrasse, merci. Évidemment, très très fort et je le remercie de nous avoir fait ce petit happening. Vous avez pu mesurer les talents de comédiens qui sont innés.
Je me suis dit,
qui
sont un truc louche.
Incroyable. Incroyable. Je n'en reviens pas. Bah justement, on va se remettre dans le bain tout de suite avec nos invités. Zineb qui était avec nous, que je remercie encore une fois. Et on replonge dans l'univers sulfureux de la 5. Et place maintenant à notre livre et notre premier invité. Bande annonce, mais un film, c'est bien de commencer toujours comme ça. C'était comme ça sur la 5. Souvenez-vous, regardez. Merci Arnaud de ces petits moments d'archives que tu
avec
nous
plaisir.
Réserves.
Ouais,
parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Tout à l'heure, tu nous parleras de la 5. On a plein de... Oui, tu voulais dire quelque chose.
Non. C'était grandiloquent volontairement, comme ça, pour donner ce ton solennel à la soirée. Il y avait, bien sûr, en concurrence, le truc de TF1, ouais, avec la musique de Vladimir Kosma, avec tout le cinéma du dimanche soir, qui était vraiment mythique. Et là, ils essayaient, à leur échelle, de d'équilibrer tout cela.
Et ils y sont arrivés. En tout cas, ça a marqué toute une génération. Et notamment, on découvrait les films de Terence Hill et Bud Spencer, le western Spaghetti, avec ce livre qui est donc l'événement de cette fin d'année, l'un autre événement de cette fin d'année en tout cas, qui va sortir et qui est en financement.
L'événement numéro 1. Après, il y a le numéro 2.
Exactement. Voilà. De toute façon, voilà. Sinon, il va m'en recoller une dans la tronche. toujours chez Pulse Edition. Vous pouvez participer au financement participatif. On va l'accompagner, on le mettra dans le lien de replay de cette émission. Et voici ce qui vous attend avec cet univers, c'est la bande-annonce de la campagne de participation. Regardez. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. A sleepy type guy always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Boy, when you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with. Rien que la couverture, déjà, ça donne envie. Ouais. Si je ne me trompe pas, Salut l'ami et Dieu le trésor,
c'est ça.
Extrait de ce film-là. Qu'est-ce qui donne envie de s'intéresser? Parce que, objectivement, et moi, c'est ce que je trouve ça génial quand j'ai affaire à des journalistes qui parlent de cinéma, qui vont comme ça s'intéresser à ces films, qui en général, ce n'est pas les films qui font bien d'en parler et tout. Moi, je trouve ça génial de s'intéresser à ces univers-là. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à Bud Spencer et Terence Hill?
Moi, j'aime le cinéma pas noble, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a tout un cinéma qui n'est pas bien apprécié par la critique ou par les musées du cinéma ou les cinémathèques, mais peu importe, parce que c'est des films qu'on a adorés, auxquels on a pris du plaisir. Donc, il n'y a pas de raison de les mépriser ou de les oublier ou de ne pas devoir les traiter dans un livre fait tout à fait sérieusement. Voilà. Donc, et puis, Terence Hill et Spencer, c'est les héros de ma jeunesse.
Mais évidemment.
Voilà. Avec d'autres, avec Belmondo, avec James Bond et tout ça, avec Starsky Hutch. Mais c'est vraiment, je les ai toujours suivis, quoi. Beaucoup de gens ont grandi avec, ils ont un peu lâché à un moment donné, ils s'en rappellent, mais moi, je les ai jamais lâchés.
Qu'est-ce qui caractérise un film de Bud Spencer et Terence Hill? Moi, je sais que j'avais cette particularité, mes grands-parents avaient un restaurant et ils avaient leur appartement au-dessus. Et en général, mon grand-père finissait son service en cuisine vers 10h moins le quart, 10h, et il montait à regarder la télévision, et on arrivait dans le dernier tiers des films de Bud Spencer et Terence Hill, et c'est à ce moment-là qu'on guettait ensemble tous les trois le moment où il y avait en général la grosse castagne de fin de film.
La grosse bagarre, ouais.
La grosse castagne, le coup de poing sur la tête pour t'aplatir. Qu'est-ce que c'est ça?
Il y a ça, c'est-à-dire que c'est des comédies d'action, c'est des comédies d'aventure. où il y aura toujours un prétexte. C'est un peu comme, comme on dirait, un film d'horreur. Un film d'horreur, il y aura toujours un prétexte pour arriver à ce que le sang gicle, est-ce qu'on tue quelqu'un. Sauf que là, c'est plus familial. Il y aura toujours un moment donné où ils vont se battre contre des méchants, où ça va être toujours drôle. C'est une sorte de violence pas grave, on va dire.
C'est très Tex Avery un peu.
Il y a ah
un
oui, mais c'est de... complètement. Il y a certains films où il y a des gags vraiment qui relèvent du dessin animé, quoi, clairement. Quoi. On voit qu'ils s'amusent. Et il faut aussi essayer de se renouveler à chaque film. Ils ont fait 17 films. Donc à chaque fois.
17.
Ouais, c'est déjà bien.
Ah ouais, mais je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il y en a
50,
plein.
50,
100. Ah ouais, bah, on ne s'arrête plus. Ah non, oui. C'est vrai que en même temps, c'est toujours les mêmes qu'on a revus à la télévision. Donc c'est pas complètement.
Oui, mais il y en a certains qui sont moins diffusés que d'autres. Mais c'est vrai que oui, on connaît bien de Super Flic, Père et Impère, Salut les milieux de trésor, les Trinita, tout ça. Et même certains films qu'ils ont fait séparément, comme Mon nom est personne, évidemment, qui est un classique.
C'est la France, c'est un des territoires qui leur a réservé le plus grand accueil, ou notamment en Italie et même aux États-Unis, c'est des.
Non,
c'est
aux
des
États-Unis, c'est pas, ils s'intéressent pas trop à ce qui n'est pas du sérail, on va dire. En France, ça a très très bien marché. En Italie, énormément. Je veux dire, il y a des films qui ont fait. Le deuxième Trinita fait 14 millions d'entrées en Italie.
Ah oui, quand même, oui.
Ah oui, c'est énorme. Et en Allemagne aussi, c'est énorme. C'est encore aujourd'hui, c'est des icônes. À Berlin, il y a un musée qui leur est consacré. Je veux dire, ils ont tout en Blu-ray, tout en DVD depuis tout le temps. Il y a un festival en Allemagne, Terence Spencer, tous les ans. Enfin, c'est quelque chose de. Et j'ai appris aussi qu'en Hongrie, c'est des héros aussi. Parce qu'en fait, c'est à peu près les seuls films occidentaux qui passaient à l'époque du communisme et qui passaient à la télé. Et donc, c'était un peu une bouffée d'air frais, quoi. Et donc, ils ont gardé ça de génération en génération. Et aujourd'hui, à Budapest, il y a une statue grandeur nature de Bud Spencer dans la rue. Ouais, on n'imagine pas ça, même pas en Italie, quoi.
Mais... ça doit prendre de la place, parce que Bud Spencer...
Ah oui,
c'était quand même massif. Ouais, voilà, rien ne le prédisposait, en plus, à être comédien.
Mais non, c'est ça.
Un champion de natation, je crois, c'est ça.
C'était un ancien champion de natation. C'est le premier Italien à être passé sous la barre de la minute pour faire les 100 mètres. Donc, c'était vraiment... Il a fait des Jeux Olympiques, etc. Et puis après, il a arrêté à la trentaine. Et puis, il a fait un peu différentes choses, un peu des affaires, un peu du droit, etc. Il est parti en Amérique du Sud, il est revenu. Et un jour, on lui demande de faire un film. On lui dit... Le réalisateur l'appelle en disant « Mais vous savez monter à cheval ?» Il dit « Non, je ne suis jamais monté à cheval de ma vie. Vous parlez anglais ?» Non. « Vous avez la barbe ?» Non, je me rase tous les jours. Ah, bon. Mais le type insiste et comme il a une dette à rembourser, il dit « Bah tiens, ça va m'aider. » Donc il accepte comme expérience, comme ça, de faire un film qui est un western, qui va se tourner en Espagne. Il pense faire un film, quoi. Donc il va là-bas. Il a comme partenaire quelqu'un qui s'appelle Peter Martel, qui la veille du tournage, en s'engueulant avec sa femme, se pète la jambe en voulant lui
faut
donner un coup.
Jamais s'engueuler avec sa femme.
Et voilà, il rate son coup, il tape le mur et donc il a la jambe dans le pâtre. Donc il faut aller chercher quelqu'un. Donc on va en Italie, on trouve Terence Hill qui est en train de tourner un western comique. Et on trouve qu'il a les yeux bleus, le chapeau.
C'est un beau gosse. Ouais.
Beau gosse. Ouais, on l'envoie là-bas et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Et Bud Spencer n'était pas acteur du tout. Il a toujours dit qu'il n'était pas acteur, qu'il était un personnage. Alors que Terence Hill, lui, était un acteur chevronné. Il a commencé à l'âge de 12 ans. Il a tourné avec Visconti dans Le Guépard. Il a tourné énormément de choses. Quoi. Donc c'est deux personnes qui n'avaient rien à voir. Et finalement, il y a une alchimie. Comme toute alchimie est incompréhensible à expliquer, mais le réalisateur se rendait compte que quand ils étaient à l'écran, le public réagissait. Donc il s'est dit, bon, ces deux-là, il y a un truc, bon, je ne sais pas l'expliquer, mais on va les garder, on va faire d'autres films avec.
Et pour comprendre pourquoi c'est dangereux pour la jeune génération qui est là, pourquoi c'est dangereux d'être dans un film de Terence Hill et Bud Spencer, j'ai choisi un extrait, moi, d'un des films. Alors, ce n'est pas le plus brillant cinématographiquement, ce n'est pas le plus peut-être intelligent au niveau du script, ce n'est peut-être pas le plus grand film qu'ils aient fait, mais moi, il me faisait marrer vraiment quand j'étais gamin. C'est évidemment Père et Impère. Où ils se retrouvent à devoir être des joueurs patentés qui essaient de truquer tout ce qu'ils peuvent truquer. Et j'ai choisi de vous montrer un petit extrait du début du film, la rencontre, dans un diner américain typique. Je crois qu'on est en Floride, si je ne me trompe pas. Ouais. Et Ben Spencer déteste qu'on gâche la crème chantilly. Voilà, regardez tout ce petit extrait.
C'est l'âge de s'en prendre à un gars qui est tout seul. Les tartes à la crème, il y a longtemps que le gag est éculé. Et moi, les pâtisseries, je les mange. Chut, toi, ferme-la.
Ouais.
Ouais. Main en l'air, votre dernière heure est arrivée.
Ils bluffent, ce sont des queues de billard.
Oh,
me tue.
T'as des ongles sales.
Ça marche tout de suite. Ça marche tout de suite. Il y a une séquence que je vous... Regardez le film, ils ressortent tous en ce moment en Blu-ray. Ouais. Regardez la fin, il y a une séquence sur un bateau clandestin, dans un casino clandestin, où alors là, ça y va dans tous les sens, et il y en a un qui ne doit plus lui rester beaucoup de temps à la fin. On a parlé du côté très texarien, mais ça s'entend jusque dans les bruits qui accompagnent les bruitages, bagarres. Quoi.
Il y a des bruitages, ouais. Il faut savoir aussi que de temps en temps, les cascadeurs recevaient des vrais coups.
Ah oui, tu m'étonnes.
Bah oui, c'est-à-dire qu'on est, on voit les coups, voilà, y en a un qui s'est fait péter le, péter le tympan par une grosse baffe de Bud Spencer.
Ah bah, une petite pose la main
ouais, comme ça, si on fait plusieurs fois la scène. Parce qu'en plus, ils étaient jamais doublés, on les voit toujours. Bah, Bud Spencer, c'était compliqué de le doubler vu sa taille, etc. mais voilà, il y en a un autre qui raconte qu'il a perdu dedans, quoi.
C'est évidemment tout un héritage lié notamment à ces western spaghetti qu'on avait l'habitude de voir, l'héritage des films de Léon et qui avait beaucoup cours dans les années 70, mais là avec un aspect très comédie. Évidemment, il y a la période western et la période comédie. Il y a une période qui est plus populaire chez les fans de Terence Hill et Bud Spencer.
Je pense que c'est un peu les deux. Enfin, je pense que les Trinita ont encore une grande popularité. Ce qui est étonnant, c'est que les trois premiers films qu'ils ont fait ensemble, qui sont des westerns, ne sont pas encore tout à fait comiques. On sent qu'ils veulent y aller, mais ils n'y vont pas franchement. Donc, c'est avec les Trinita qu'ils y sont allés carrément, en se demandant si ça allait marcher. D'ailleurs, personne ne voulait faire les films à ce moment-là. Les producteurs disaient, ils regardaient le scénario, mais où il y a trop de dialogue, où est-ce qu'il y a les morts? Il n'y a pas de morts, là. Nous, on veut des morts. Parce qu'à l'époque, le western italien, c'est quand même... c'est sanglant, quoi. Et donc, en fait, après, les Trinita fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Et ils ont reproduit un peu tout ce qu'il y avait dans Trinita dans les films contemporains.
Toi, c'est quoi, t'en as un que tu préfères ou t'aimes bien?
Je réfléchis depuis tout à l'heure que tu m'as lancé là-dessus. Ouais, je les ai tous vus sur la 5, moi, à l'époque. Je pense pas avoir de préférence. Je me souviens d'une scène qui m'a fait mourir de rire étant gamin où il mélange de la poudre de cartouches dans les haricots d'un grand-père là, qui devient dingue dans une cuisine. Enfin, voilà. c'est un souvenir peut-être obscur, mais...
Je pense que c'est On m'appelle Malabar, qui est un film avec Bud Spencer. Seul,
ah, c'est juste
un
Bud Spencer, ouais. Tu vois, mais c'est j'ai pas tout revu forcément, mais c'est ça fait partie de l'enfance. Et il y avait une justice punitive qui, comme dans les contes de fées, ça peut être très grave pour les méchants, mais s'ils s'en prennent une bonne dans la tronche,
ça soulage.
Oui, ça soulage. Dans l'ordre,
et puis en plus, je pense que les gamins adoraient ces deux types-là parce que on les voit, ils ont pas d'obligation, pas d'attache, ils traînent un peu comme ils veulent. Y a personne pour leur dire de venir à la maison. Ils mangent avec les doigts, ils mangent n'importe comment. et ça, on aurait bien aimé faire ça, quoi. Manger des haricots, prendre le poulet à pleine main, arracher le manger, et puis finir en rotant comme ça, et puis on est bien là, et on repart.
Et on repart, on n'est pas bien là, à l'aise, voilà. Attendu.
Il y a une chose aussi qui m'a marqué, c'était le doublage français, parce qu'on a quand même Dominique Paturel pour Terence Hill, et puis Claude Bertrand, je crois, c'est ça, pour Bud Spencer, donc c'était quand même deux.
Là, dans ce qu'on a entendu, c'était pas...
C'est pas lui, oui.
Jacques Thébault,
je me posais la question, mais globalement, je pense que c'était Claude Bertrand, et en fait, on a... Enfin, c'est une grande pointure du doublage, quoi, donc ça a ajouté aussi une dimension comme ça, riche.
Jacques Thébault, qui était la voix de Steve McQueen, notamment.
James West aussi.
De James West, évidemment, et du prisonnier.
Et du prisonnier.
C'est marrant parce que...
Tu regardais, toi?
Oui, je regardais, et puis moi, j'ai une génération, je suis plus vieux que vous, donc du coup...
Pas du tout.
J'étais en plein dans la plaque, et je trouve que c'est l'élégance, enfin, c'est la violence traitée avec élégance, quoi, pratiquement. Mais par contre, les ados de maintenant, moi, je sais que les miens, comme j'ai une fille de 16 ans et puis un garçon de 20, mais eux, ils n'adhèrent pas trop à ça. Quand je regarde ce genre de truc, à la limite, ils se foutent de ma gueule. Alors bon, ben voilà, moi, eux, ça les fait sourire. Quoi.
Alors qu'on voit que ça fonctionne, les filles. Ça
oui, je sais bien, mais...
Je pense que c'est un peu une espèce de nostalgie qui revient, parce que ça nous fait penser à plein de... Alors, je veux dire des trucs qui n'ont peut-être rien à voir, mais La Chèvre ou des choses comme ça, où on parlait des films avec Belmondo. Où... En fait, c'est une nostalgie de ces images-là, ce type d'images qui nous attrape directement, parce qu'on a envie de regarder, parce que c'est drôle, parce que c'est décalé, parce que on est directement dedans.
Et puis ce qu'il y a, c'est que maintenant, j'ai entendu dans votre conversation, on s'intéresse de plus en plus au doublage.
Ouais.
Alors qu'à cette époque-là, le doublage, moi, franchement, c'était un truc qui ne venait même pas à l'idée, quoi. C'était comme ça. Et maintenant, c'est vrai que les doubleurs sont... D'ailleurs, on le voit dans les événements et tout, ce sont des gens
des grosses stars.
Ah, mais des stars.
Des grosses stars. Il y a une autre partie du travail qui est fait sur les films qui a une importance, et on va rejoindre un peu le métier de Jean-Paul, c'est la musique. La musique des films, notamment avec les frères Mauricio De Angelis, Oliver Onions, qui se faisait appeler. Ils ont composé beaucoup de films, beaucoup de musique des films de Terrence et Bud Spencer, et ils ont une signature très particulière dans leur façon de travailler.
Mais tout à l'heure, j'ai entendu un extrait d'un chanteur, là.
Ouais.
Là, il faut y aller, là.
Mais il faut vachement y aller, mais je suis d'accord avec toi. Et on entend tout à l'heure un extrait d'une musique, c'est pareil, c'est extrêmement festif et dynamique.
Oui, tout de suite, c'est là, puis c'est chanté, on a envie de bouger, on a envie.
Ouais,
ça... Moi, quand j'entends des musiques des films de Bud Spencer et Terence Hill, je sais que le sourire me vient automatiquement parce que je sais à quoi ça me fait penser, tout ça, voilà, et c'est une musique joyeuse, voilà, c'est.
Et les frères, donc Oliver Onions ou Maurizio et Guido
De Angelis,
ont travaillé aussi beaucoup pour la télévision. Ils ont travaillé pour une grosse société de création de dessins animés en Espagne qui s'appelait BRB. Et on leur doit des dessins animés qui sont passés notamment à l'époque de Recrea 2 ou du Club Dorothée. Ils ont signé les musiques du Tour du Monde en 80 jours, des Trois Mousquetaires, les versions chiens, enfin voilà, de tous ces dessins animés-là très importants. De Sandokan pour la télévision.
Sandokan, ils ont fait aussi Cosmos 99 en Italie. Enfin, ils ont vraiment pris une catégorie comme ça qui était vraiment leur touche. Effectivement, on reconnaît les deux trois premières mesures, on sait que c'est eux.
Et ils font des concerts.
Ils font des concerts live.
Je parlais de la Hongrie tout à l'heure, ils font des concerts à Budapest. Hein. C'est rempli, quoi.
Génial.
Ils chantent toutes les chansons des films de Bud Spencer et Terence Hill, plus le Tour du Monde en 80 jours, ils le font aussi, etc.
Ah, ça marche tellement bien. Et puis tu sens qu'ils ont envie sur scène et qu'il y a une vraie joie qui les encadre et qui les entoure. Dans le livre sur Terence Hill et Bud Spencer, il y a donc le financement participatif avec ce livre qui est en train d'être fait. Donc il y aura le bouquin, mais il y aura aussi des à côté. Il va y avoir notamment un documentaire que tu avais signé sur.
Oui,
nos deux comparses.
Oui, qui a été diffusé sur Paris Première cette année, là, qu'on a fait l'année dernière, qui s'appelle Terence Hill, Bud Spencer et moi, où en fait, le réalisateur du documentaire, quand il a vu que j'étais fan depuis l'enfance, s'est dit tiens, mais on va raconter ça par lui. Et comme ça parle à tout le monde se rappelle de son enfance par rapport à ces films-là. Donc voilà, on me voit un peu voyager, parler à des gens, essayer de comprendre pourquoi ça marchait, etc. quoi. Et on a fait un truc, j'espère, qui a été assez divertissant. En fait.
Alors pour savoir comment fonctionne, notamment l'équipe de Pulse, je sais que c'est entre de bonnes mains. Le documentaire, quand je t'entends parler, je sais que ça va forcément être bien parce que tu as cette... Et je trouve que c'est hyper important quand on est sur du populaire, mais pas que d'ailleurs, cette espèce de transmission. Dans la façon de parler de ce que tu aimes, je trouve que ça se ressent immédiatement. Et je trouve que c'est hyper important. Et il y avait notamment ce livre qu'on a vu derrière toi, mais que je rementionne parce que voilà, si vous aimez les coulisses de la télévision, c'est important. Il est toujours disponible, on le retrouve toujours en bonne position dans tous les bons magasins de livres. Ça tourne mal à la télé, il y a plein, c'est bourré d'anecdotes. Mais vraiment bourré d'anecdotes. Il y avait déjà eu des versions, notamment à Hollywood, et puis plus dédiées au cinéma. Mais j'avais zappé un remake du Magnifique avec Antoine Decaune, par exemple. Ça m'avait complètement
échappé. Il y a beaucoup de gens qui ont zappé ça. Je crois que même Antoine Decaune, il aimerait bien qu'on le zappe.
Le procès de Starsky et Hutch de Paul Michael Glaser. Évidemment, Jeanne Moreau qui claque la porte d'urgence avant même d'y aller. Parce que tu comprends, c'est trop long à tourner sur les plateaux de machin américain. Il ne faut pas déconner. Voilà.
Ça couvre quelle période de télé?
Des années 50 aux années 80, jusqu'à Game of Thrones.
Jusqu'à Game of Thrones, donc le pilote qu'il a fallu complètement refaire, petite pépite, voilà.
Merci.
Vraiment, et hâte de lire, franchement, tu peux pas savoir depuis que je sais qu'il y a ce projet-là, j'ai hâte de me replonger dedans. On va en reparler en fin d'émission parce qu'on va écouter un extrait de la bande originale des films des frères... De Angelis et puis de Terence Hill et Bud Spencer. Puisqu'on parlait de dessins animés avant de faire la jonction avec Jean-Paul Césari, voilà, il y a aussi ce petit livre qui vient de sortir qui s'appelle Culture Anime et où on parle aussi de plein de dessins animés. C'est un petit peu une entrée en matière quand on veut se familiariser avec les termes de la pop culture japonaise, des dessins animés qui vont des années 60 aux années 90. Vous avez ce qu'il faut vraiment pour se mettre dans le bain. T'as pas trouvé alors ton film préféré, t'as toujours pas trouvé.
Non, j'aime bien avec les extraterrestres.
On attend.
C'est tout azimuté avec des extraterrestres là, qui arrivent sur Terre et qui refilent les pouvoirs. C'est deux super flics, non? Ça doit être ça.
Non, ça c'est le shérif et les extraterrestres.
Ah, le shérif.
Avec que Bud Spencer.
Ah, bah tu vois,
il va falloir.
Alors j'aime bien la série Lucky Luke avec Terence Hill. J'essaie de rattraper. Non, mais bon, mais tous, on salue l'ami, adieu le trésor, ça me soit bien aussi.
Et puis ils ont une grosse carrière derrière de... à la télévision aussi, tu te souviens, avec Lucky Luke peut-être, je sais pas si tu.
Je viens juste d'en parler.
Non, mais de Lucky, pas Lucky Luke, de.
Merci
de m'écouter. Non, comment il s'appelle l'autre dans la série avec.
Non, c'est raté.
Best Sponsor.
Si, de Best
Sponsor. Ah oui, Extra Large, bien sûr.
Sur M6. Qui était passé sur M6, voilà. Et puis il a eu d'autres séries derrière.
C'est bien rattrapé.
Avant, il a fait Le Professeur. Non, ouais. Extra Large, il y a eu Les Faux Frères.
Laquelle série était avec.
Ah oui,
le
Faux
Frères, de...
bah, c'était Faux Frères avec le gars de Michael Thomas. Ouais.
L'acteur
des deux flics.
Il a fait donc Camillo, Terence Hill, je crois.
Oui, au cinéma.
Au cinéma, il n'a pas fait une série, il n'a pas eu une déclinaison.
Il a fait une série Don Matteo.
Don Matteo.
Qui a duré 20 ans, il a fait 260 épisodes et tout.
C'est incroyable.
Non,
moi, j'aimais pas. Mais moi, je pense que tant qu'il ne file pas des tornes dans la tronche.
Oui, c'est peut-être ça qui te manquait.
Mais en fait, à partir des années 2000, Terence Hill a une carrière. Il est revenu en Italie parce qu'il vivait aux États-Unis. Et il a fait des choses beaucoup très différentes, en fait. Assez profondes, même souvent, avec une obsession, bizarrement, une obsession sur la mort. Il y a toujours ces personnages, ont toujours quelqu'un dans son passé qui est mort par sa faute ou pas. Parce qu'en fait, un de ses fils est mort dans un accident de voiture en 90 et ça l'a bouleversé. Et donc, ça se retrouve beaucoup en fait dans les séries et les téléfilms qu'il a pu faire en Italie. C'est autre chose. C'est plus les bagarres, c'est tout ça, mais c'est autre chose.
Alors, attends, il peut pas passer non plus 40 ans de sa vie à foutre des tornes sur la tronche de tout le monde.
C'est des séries qui ont énormément marché en Italie, hein, il est extrêmement populaire.
Est-ce que tu as eu l'occasion de les rencontrer l'un ou l'autre de
J'ai rencontré Bud Spencer il y a 20 ans. Je l'ai interviewé. Il venait pour un film qui s'appelait En chantant derrière les paravents.
Oula.
Voilà, c'était un film d'auteur. Bref. Et il était très content d'avoir joué là-dedans parce qu'il avait l'impression de enfin faire
Son chat au pantin.
Et donc je l'avais rencontré, j'avais fait parler de sa carrière et j'ai toujours ce souvenir. C'était dans un hôtel et on me dit oui, Monsieur Spencer vous attend. Alors j'arrive et je m'arrête et je vois cette masse en fait. Il s'est élevé pour m'attendre. Il était extrêmement grand. J'ai ce souvenir de lui avoir serré la main et d'avoir vu ma main
disparaître
dans la peluche gigantesque de Spencer. Voilà quoi.
C'est phénoménal d'avoir rencontré ces gens-là parce que c'est vrai qu'ils appartiennent à tout un pan de la pop culture.
Je sais pas si vous savez qu'à Paris, à boulevard Raspail, il y a un glacier, la Gelateria Girotti, qui est tenue par. Qui appartient à Terence Hill.
Ah bon ?
Girotti, c'est son vrai nom. Je vous conseille, boulevard Raspail, vous verrez.
C'est pas très loin d'ici en plus.
Ouais. Allez-y, vous verrez, vous pourrez manger des glaces Trinita au Rico Rouge.
C'est vrai ?
Il y a une fresque de Mon nom et personne sur le mur. Le café, les glaces et les gâteaux sont excellents, allez-y.
Ah bah écoutez, on y va juste après l'émission, les gars. En attendant, précipitez-vous. D'abord, il faut accompagner cette campagne de participative pour la sortie du livre. C'est important. C'est aussi ce qui aide les producteurs et les livres à se faire. Et on sait, vous le savez, on accompagne beaucoup Pulse Edition avec notamment le livre de Arnaud, mais on l'a fait aussi sur le livre sur Pif Gadget, on l'a fait sur Les Maîtres de l'Univers et tant d'autres. C'est quelqu'un qui accompagne beaucoup les auteurs et propose beaucoup de contreparties. Mais il y a besoin de votre soutien. Alors même si là, on voit que la campagne se passe plutôt bien pour le livre, parce qu'il y a aussi un public à l'international. J'imagine qu'il est en attente. Il y aura une version.
Et alors pour l'instant, on prévoit une version anglaise et une version allemande.
Ce qui est pas mal déjà. Ce qui est deux gros marchés. On vous mettra le lien dans le billet de replay de cette émission. Mais allez-y, le livre sortira au mois de novembre prochain. Vous savez ce qu'il faut avoir au pied du sapin. Il était une fois Bud Spencer et Terence Hill et au pays de Croque Vacances. Deux salles, deux ambiances. Mais voilà, ça fait partie des univers qui nous ont plu, évidemment. Je me tourne quand même vers la régie parce qu'on devait avoir avec nous une jeune autrice, comédienne qui devait être avec nous. On n'a pas de nouvelles. Donc on va enchaîner directement sur la 5 avec toi, Arnaud. Ouais. Et on va se lancer avec une petite vidéo pour se remettre dans le bain. Et puis on va voir à quoi ça ressemble. Regardez. Ambiance années 80, puisque la 5 a duré de 86 à 92.
Tous les jours, du lundi au vendredi, la 5 vous propose, à 16h50, Arabesque, l'atmosphère d'Agatha Christie. À 17h40, Jemmy, la femme bionique. À 18h40, la saga de la famille Weldon, Flamingo Road. À 19h40, Star Trek, la route des étoiles. À 20h30, à fond la caisse, le rendez-vous à la vitesse du son avec les aventuriers du monde moderne. Et à 21h25, série policière, un festival de téléfilms, des hommes différents, une volonté commune, la lutte contre le crime. Du lundi au vendredi, passez votre été sur la 5.
Voilà.
Eh ouais.
C'est stylé.
Et on passait l'été sur la 5, hein. Et pas que l'été d'ailleurs.
Du lundi au vendredi, samedi, dimanche aussi. Hein,
avec les émissions, il y avait les émissions jeunesse, Youpi, l'école est finie, enfin il y avait tout ce qu'il fallait quoi.
Oui, oui, je trouvais ça rigolo de faire un petit clin d'œil à la sortie de ton, pour accompagner la sortie de ton livre avec la 5 qui était bon, bien sûr la chaîne où on a vu les films du duo dont on parle depuis le début. Et puis c'est une chaîne qui effectivement a duré peu de temps, de février 86 à avril 92. Donc, et puis il y a toute une histoire parce que bon, gouvernementale, politique, international entre l'Italie et la France, et voilà, cette chaîne a nous on était enfants à l'époque quand elle est arrivée, et on s'en fichait de tout ça. Ce qu'on voulait, c'était de voir, c'était un robinet à série,
c'est voir K2000, hein,
ouais, tout, mais ouais. Voilà, voilà, quand on te disait à fond la caisse tous les soirs une série nouvelle, c'était l'arrivée de K2000, l'arrivée de Tonnerre Mécanique, l'arrivée de Supercopter,
voilà, ouais, Los Angeles,
ouais, on est Matlock, on était comme des dingues. Et et la 5 avait cette volonté aussi, parce que bon, ils ont été accusés de passer trop de séries étrangères. Donc ils ont trouvé, ce qu'a fait un petit peu TF1 aussi par la suite, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de, pour les quotas de diffusion français, de passer tout un tas de vieilleries pour eux de l'ORTF, donc qui était tout aussi bien à voir. Et donc on a redécouvert les 5 dernières minutes, vraiment beaucoup de choses. Ils ont repassé, je crois qu'on en parlait la dernière fois, la série avec Denis Fabre, Madame êtes-vous libre, enfin voilà, il y a eu des choses complètement fous quoi.
C'est pas eux qui ont diffusé aussi le matin des trucs genre Mes Aventures,
ah ben bah, alors glauque, Mes Aventures production. C'était sur TF1, ah, mais TF1. Ils ont surtout passé par la suite dans les années Voisin 90 ou Voisin Voisine, voilà, où c'était donc pour vous expliquer ce que c'était une émission, une série pardon, dans lesquelles il y avait un pitch qui tenait sur un timbre-poste, et on poussait les acteurs sur une scène en disant quelqu'un va t'appeler, joue la surprise et démerde-toi, et il n'y avait pas de budget, donc c'était très mauvais. C'était comment ça? Ah bon? Bah, oui, mais je sais. Et puis, enfin, c'était vraiment.
Aucun sens.
C'est de l'impro.
C'était hypnotique et en même temps, à la fois hypnotique et nul, quoi. Parce que,
hypnotiquement nul.
Oui, mais culte, j'aime pas trop employer ce terme-là. Mais là, pour le coup, oui, ça a vraiment marqué. C'était une nouvelle façon de faire de la télé.
Faut expliquer quand même, pardon, pour celles et ceux qui nous regardent, qui comprennent pas forcément bien, parce qu'à l'époque, toutes les chaînes, quand la 5 arrive, quasiment toutes les chaînes, à part Canal qui est crypté, toutes les chaînes étaient publiques.
Voilà, c'est ça. La 5, c'était
la première
télé publique non cryptée qui arrivait donc après Canal+. Il y a eu après TV6 qui a rapidement laissé
chaîne
sa
privée,
place.
Chaîne privée, tu veux dire?
Ouais, ouais. Et après, oui, pardon, privée. Et mais je veux dire non.
Oui, non cryptée.
Non cryptée, non payante. Et donc voilà, elle a ouvert tout un tas de possibilités qui n'existaient que sur TF1, Antenne 2 et FR3 à l'époque.
Moi, je me souviens que c'était la première chaîne qui avait diffusé des films avec des coupures pub.
Ben oui, oui.
Et je me rappelle que le premier film, si je ne me trompe pas, c'était L'Africain de Philippe de Broquin.
Ah, très bien, ouais.
Et avec Philippe Noiret et Catherine Deneuve. Et tout d'un coup, c'était un peu. On était curieux de voir. On regardait le film, on dit ah, la pub. Ah, bah, ouais,
on n'était pas habitués à ça.
Qu'est-ce qu'on fait, on regarde, on fait quoi.
Ouais, et ils avaient toujours une façon de mesurer l'audimat en voyant le taux de chasse d'eau tirée chez les foyers. Ah. Donc, quand la consommation d'eau augmentait, ça voulait dire que tout le monde était parti se soulager devant la publicité. Donc, qu'ils étaient devant cette chaîne-là. C'est quand même rigolo, quoi. C'est sociétal, il y a plein de choses liées à ça.
Moi, je me souviens que c'est grâce à la 5 que j'ai commencé à chanter des génériques.
Mais oui.
Non, mais c'est vrai.
Mais oui.
Le premier que j'ai chanté, c'était pour la 5. Bon, après, ils ont passé sur TF1. Mais à la base.
Grand Prix, non?
Il y avait Grand Prix, il y avait l'Académie des Ninjas, qui est devenu le Collège des Ninjas.
Sur TF1,
mais c'est au départ, fin, ouais. au départ, c'était sur la 5.
Nolan aussi, ouais, c'est vrai.
Donc voilà, bah
mais c'est vrai, t'as participé à l'aventure de la 5 et je crois que t'as été avec Claude Lombard et puis tous ces gens.
Moi, je n'ai jamais connu Claude Lombard, mais par contre, moi, ce que je sais, c'est que moi, je m'y intéressais pas trop parce que j'avais pas le temps. Lorsqu'on est secrétaire d'une star comme Dorothée, on n'a pas le temps de s'intéresser à ce qui passe en ce moment.
Évidemment.
Mais par contre, oui, après, On m'a dit, mais tu sais que les premiers que tu as chantés, c'était sur la 5. Voilà.
Ouais,
donc, tu parles de la 5.
Ouais, ouais,
mais alors,
ça,
petite
ouais.
question, parce que je rebondis sur cette chaîne, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de stars qui ont été débauchées pour arriver de TF1 à la 5. Dorothée, elle n'a jamais été approchée, toi qui as travaillé avec elle, elle a été approchée par la 5 ou pas?
Je ne pense pas.
Non, ouais, c'est clair, c'est dingue.
Mais bon, ça, il faut que tu poses.
Il faut lui poser la question. Non, mais j'y pense d'un seul coup, ça me vient.
À notre ami Jean-Luc Azoulay.
Je lui pose la question, mais c'est vrai que.
Est-ce qu'il y avait des émissions pour enfants sur la 5?
Oui, il y avait Youpi des Colifiques.
Oui.
Ah, d'accord.
Ouais. Justement, c'est pas d'animateur, pas incarné.
Alors, ouais, voilà, je pense qu'il y a eu. J'ai peut-être la réponse parce que c'était en 87 où ça a vraiment explosé pour la 5, dans le bon sens. Hein. C'était vraiment l'audimat au rendez-vous et ils ont créé ce rendez-vous jeunesse qui s'appelait Youpi, l'école est finie. Et il y avait un accord, donc TF1 avait un certain portefeuille de dessins animés et de séries, notamment japonais, on connaît l'histoire sur le Club Dorothée, et la 5 avait plutôt tout le portefeuille aussi, mais qui était diffusé sur le canal italien.
De la RAI.
Et donc c'est pour ça qu'on a récupéré sur la 5 Jeanne et Serge, Karine et l'aventure du Nouveau Monde, enfin Flo et le Remorçon Suisse, tout ça. Et donc il y avait une sorte de guerre du portefeuille de dessins animés ou de séries télé
qui appartenait à Berlusconi.
Voilà. Et donc chacun avait son monopole entre AB sur TF1, ce qu'ils avaient pu récupérer ou produire, et la 5. Donc
tu vois, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui.
et Youpi, l'école est finie, c'était tous les jours, enfin, c'était
oui
tous
c'était
les jours,
après l'école comme son nom l'indique. D'accord, et puis, okay. Et puis aussi en week-end il y avait des trucs spéciaux, mais il y a eu beaucoup d'inédits diffusés sur la 5, et c'était un rendez-vous incroyable quoi. Quand Jeanne et Serge est passé, c'est un dessin animé sur le volleyball. Le taux d'inscription dans les licences de volley ont...
Et Olivier Tom.
Bien sûr.
Évidemment. Oui. Voilà. Dessin animé culte, on a tous eu envie de jouer au foot comme Olivier Tom.
Voilà, c'est ça.
Comme Olivier Tom.
Et donc oui, je voulais apporter quelques petits extraits aujourd'hui pour...
Il nous a apporté plein de petits cadeaux. Mais... Parce que ce qui faisait le sel quand même de cette émission, c'était l'habillage.
Ah bah l'habillage était exceptionnel.
Enfin, surtout les premières années.
Voilà, et puis je vais c'est la dernière de la saison, je vais quand même balancer quelque chose. Hein. Aujourd'hui, je prends des risques.
Oh, tu prends des risques?
Attends, il va y avoir une révélation.
On regarde un premier extrait alors.
Et vous êtes concerné, monsieur Letraine. Ne faites pas le mal.
Je dis pas ouais.
Ah oui, attention.
Regardez, premier extrait d'un habillage de la 5, ça ressemblait à ça.
Pour les concerts, pour les spectacles, réservez vos places 3615, code la 5.
Il y en a eu tellement, ouais. Il y a eu Barretta, il y a eu Riptide qui était là aussi.
Enfin, oui, Mike Hammer,
évidemment. Voilà. Même Derrick repassait sur la 5.
Il y avait une super série allemande qui s'appelait Chimansky.
Ouais, exactement.
Ouais. Il y a eu Tator, il y a eu plein de trucs. Voilà.
Quand je pense qu'elle, quand la 5 s'est arrêtée, tout le monde a réclamé Derrick. Et que 5 ans plus tard, tout le monde a milité pour que Derrick s'arrête. Comme quoi, le temps fait le temps. Ah oui, c'était un peu chiant, Derrick. C'était très rapide. Mais ceci dit, la boucle est bouclée. Il y a 7-8 ans, quand on a reçu Jean-Luc Azoulay ici, puisqu'il a récupéré les droits de distribution de Derrick à l'étranger, et à l'époque, il s'occupait aussi, en France, pardon, il avait récupéré aussi la production de Navarro, et il m'avait dit à ce micro qu'à un moment, il avait envisagé de faire un crossover entre Roger Hanin et Derrick. Et je suis sûr qu'il aurait été capable de le faire.
Évidemment.
Il aurait été capable de le faire. On regarde un nouvel extrait.
Allez,
de la 5. Regardez, j'attends cette révélation, je me demande.
Ah bah, attends, ça va.
Il y en a qui ont peur pour leur boulot.
Il fallait révéler les choses. Vous avez tout simplement piqué le générique de la 5.
J'adore à fond la caisse.
Bon, c'est bien. Alors,
c'était le samedi après-midi à 13h35 et on enchaînait des séries toute l'après-midi. Ouais. K2000, Tonnerre ça Mécanique, Arabesque. Et ça vient de là.
Il y avait Happy Days, Super Jimmy, on a vu tout à l'heure. Et effectivement, ce générique en image de synthèse, un peu comme le clip de Dire Straits, Money for Nothing, ça représentait comme oui, ça. Et ça nous faisait rêver à l'époque. Hein, et on était dans le canapé comme ça ou dans le fauteuil en train de dire wow.
Ça marche ouais. Toujours
bien sûr.
Un dernier extrait que Arnaud nous a apporté. Vous allez voir, c'était quand même bien cette chaîne, moi j'aimais bien. Regardez,
vous voulez être candidat à la porte magique, Tapez 3615, la 5.
Vous voulez en un éclair une météo du tonnerre? Tapez 3615, la 5. Vous voulez savoir si la bourse flambe? Tapez 3615, la 5. Vous voulez connaître le multi-top Nuggets avec Childéric? Tapez 3615, la 5. Vos amis captent mal la 5, dites-leur de taper 3615, la 5. Vous voulez dialoguer avec Jean-Claude Bourret, Guillaume Durand, Philippe Bouvard, Childéric, Thierry Ardisson, Patrick Sébastien et Stéphane Collaro? Tapez 3615, code la 5.
Rien que cette scène à la fin avec les Coco Girls, je sais qu'aujourd'hui ça passe plus.
Bon, enfin oui, c'est une époque.
C'est une autre époque.
Ouais. Ils insistaient beaucoup pour le 3615 la 5 parce que la 5 n'était pas implantée à l'époque dans toute la France et on avait du mal à recevoir la 5. Donc il y avait un numéro qu'on pouvait appeler en disant je reçois mal la 5, quand est-ce qu'il va y avoir une antenne plus proche ou alors par le 3615 la 5. Donc il y avait beaucoup de jingles comme ça autour de amusants.
Ils avaient le soin quand même pour habiller l'antenne.
Ah mais oui, ils étaient très très forts.
Ils avaient le chic.
Ce qui reste en tête aussi, hein, quoi qu'il arrive.
Et hasard du calendrier, la 5 s'arrête à minuit le 12 avril 92, le jour où Euro Disney ouvre ses portes à Marne-la-Vallée. La chaîne, voilà, exsangue, n'ayant plus d'argent, ruinée, est obligée de fermer. Et c'était la première fois qu'on arrêtait une chaîne de télévision et pas C8. Pour ceux qui auraient oublié un peu l'histoire de la télévision.
Non, puis c'était dramatique, ils n'avaient plus de sous, donc ils passaient constamment les mêmes épisodes. Donc il y avait l'Enfer du Devoir qui passait en boucle tout le temps le même épisode jusqu'à la fin, parce que c'était vraiment. Il y avait un appel aux dons avec Jean-Claude Bourret en première ligne. D'ailleurs, je vous ai apporté son bouquin, parce que c'est
il est sorti il y a deux ans.
Il est sorti, non, très récemment, il y a six mois peut-être.
Ouais.
Donc il y a des révélations, tout ça. Bon, c'est surtout. Il règle quelques comptes et c'est agréable. Il y a des photos aussi de l'époque, mais c'est vrai qu'il y a tout. Une sorte de traquenard de l'époque où déjà la gauche des années 80 voulait créer une chaîne et pour se rendre plus populaire auprès des électeurs en disant tiens vous avez vu c'est nous qui avons créé ça et puis après ça c'est devenu une sorte de gouffre financier et ils se sont refilés la gestion de la 5 à différents PDG qui ont racheté dont les ponts d'or qui ont été faits pour Collaro, Sabatier, tous ces gens qui ont été appelés en renfort sur la 5 et puis ça s'est fini de façon dramatique.
J'adorais La Porte Magique, ce jeu complètement surréaliste, avec Michel Robb qui ensuite a rejoint, je sais, l'écurie AB puisqu'il a joué dans Les Mystères de l'Amour, les Vacances de l'Amour, et qui avait animé, je crois, le premier animateur à avoir animé La Roue de la Fortune sur TF1, si je me trompe pas.
Il avant, était sur, avant Christian Morin. Ouais.
La Porte Magique, c'était sur. Et je crois que c'est pas lui qui a animé Route pour l'aventure, si.
Oui, c'était bien sûr lui qui faisait aussi avec Banga, on en parlait
avec
la dernière
Banga,
fois.
Exactement.
Voilà, il y avait des jeux aussi qui choquaient. Il y avait un jeu, je crois, de Jacques Antoine, donc le monsieur qui avait fait les jeux de 20h et Fort Boyard. Il y avait un jeu qui s'appelait Je compte sur toi, présenté par Olivier Lejeune.
Oui, il fallait compter de l'argent direct.
Il fallait compter de l'argent, mais des vrais billets. Et les candidats étaient déconcentrés, donc il leur envoyait des confettis dans la tête où il y avait des poules qui sortaient, des poules, l'animal qui sortait des décors. Et il fallait compter, mais tu avais des sommes immenses, que plus de 15-20 000 euros, ce qui représenterait aujourd'hui. Ça et en fait après, à la fin il y avait une machine à billets qui faisait comme ça et ça donnait s'il avait le total et il remportait la somme et parfois le candidat perdait à 100 francs près quoi.
Voilà.
Ça devait pas être trop cher à produire. En fait.
Mais écoute, mais ça faisait un peu, tu sais,
ça va.
Money Drop sur TF1, où tu voyais les mecs de la Brink s'apporter des fallait jouer avec le billet. C'est un peu comme ça. Où est la limite entre le pudique et l'impudique, en fait.
Là, elle est dépassée, largement dépassée. Et d'ailleurs, là, pour le coup, en matière de. Parce que je posais la question à Jean-Paul tout à l'heure sur Dorothée, je pense évidemment à une grande personnalité, à la fois de la télévision, mais aussi de l'univers AB et Club Dorothée, qui est Patrick Simpson-Jones, qu'on avait eu au téléphone il y a deux ans ou trois ans pour une grande interview et qui nous rappelait effectivement que lui s'était laissé tenter par les sirènes de la 5 vers la fin. Il avait été appelé et il était assez franc en disant que, évidemment, c'était pour la beauté du métier qu'il y était parti. Il dit qu'il a été très franc en disant qu'on lui avait fait un pont d'or et que ça ne se refusait à l'époque pas beaucoup, mais que ce qu'il avait fait là-bas était quand même pas très.
Il présentait un jeu, je crois que ça s'appelait Ligne de vie ou Ligne de chance.
Ligne de vie, exactement. Je sais pas si c'était pas avec Amanda McLean, une américaine.
Madame qui avait fait VO après sur Canal+. Exactement.
Et Patrick Simpson-Jones en a fait partie. En tout cas, voilà, la 5. Et je repense et je salue aussi mon mon ami Olivier Fallet, parce que à la même époque, il y avait aussi cette radio Superloustique qui existait. Et c'est vrai que tout cet écosystème-là, Superloustique s'est arrêté quelques mois après la fin de la 5 en 92 aussi. Et c'est vrai que c'était ces univers-là qui, pour les gamins qu'on était, nous ont forgé aussi à cette culture des musiques, des chansons, et découvrir des artistes comme Jean-Paul de Superloustique.
C'est incroyable ce que tu dis là, parce que franchement, Olivier, c'est pas... Moi, je l'ai connu, il devait avoir 17 ans. Quoi.
Mais oui,
c'était un truc, mais c'était tout à fait innocent. C'était, mais c'est un mec qui a la foi, il a toujours eu. Et puis, il est formidable, lui, je l'adore. Lui.
Il est incroyable, c'est un grand connaisseur. Ah, tu l'as connu à l'époque où il était à Superloustique, alors.
Exactement.
Il t'appelait, tu faisais partie des artistes qu'on appelait au téléphone.
Bah, c'est-à-dire, oui, c'était Nicky Larson. Alors, du coup, à cette époque-là, il venait, je le faisais rentrer. Donc, il faisait des interviews là-bas, au sein même d'AB, ou à côté.
Et ça marchait très très bien. Et résultat, on écoutait le dimanche soir à la grande parade des TV Toon, on entendait ces chansons, ce qui nous a permis de découvrir qu'il y avait d'autres chanteurs, évidemment, que ceux qu'on connaissait et que AB nous martelait, c'est-à-dire Bernard et Bernard, qu'on adore et qu'on embrasse. Mais c'est vrai qu'il y avait Jean-Paul, il y avait Claude Lombard, il y avait Jean-Claude Corbel, il y avait plein de gens comme ça et qu'on a découvert et qu'on redécouvre encore aujourd'hui parce que il y a cet album qu'on voit qui vient de sortir il y a quelques jours que tu nous proposes, cher Jean-Paul, et qui nous montre que certes il y a Nicky Larson, mais il y a plein de dessins animés qui ont accompagné l'époque Club Dorothée, qui sont toujours là, quoi, et qu'on se souvient encore comme si c'était hier.
Moi, si tu veux, j'ai fait cet album, c'est pas du tout pour des raisons commerciales, mais c'est vraiment pour un échange, en fait, pour remercier un petit peu tous ceux qui suivent cette époque-là. C'est incroyable. Moi, jamais j'aurais imaginé, à l'époque où j'ai chanté ça, que maintenant je ferais encore des conventions qui attirent des milliers de personnes. Et puis cet amour, quand les gens viennent nous voir, enfin, je dis nous, ceux qui représentent un petit peu les artistes, et souvent c'est les chanteurs de génériques de dessins animés, ils ont une espèce d'amour, une espèce de... Comment dire, de respect. Ils ne sont pas là pour juger. Et moi, je me suis dit, je vais quand même... Bon, à mon avis, ce sera peut-être le dernier que je ferai.
Non.
Mais bon, ça, on verra. Et donc, j'ai fait ça vraiment pour ça. Ce n'est pas du tout pour gagner de l'argent que j'ai fait ça, mais c'est vraiment pour un échange.
Et dessus, on retrouve évidemment tous les titres qu'on connaît. Alors, il y a Nicky Larson, il y a les Bioniques, il y a Plein Gaz. Je crois que ce n'est pas Plein Gaz qui était sur la 5, peut-être bien, j'ai un
c'est
doute.
C'est fort possible.
J'ai un doute. Dan Cougar, Five Man, Gordian, la chanson de Nicky, évidemment, l'Académie des Ninjas. Et puis, il y a des choses un peu plus rares, comme notamment Odyssée, qui est un dessin animé, tu me disais que tu avais enregistré il y a quelques 2 ans, 3 ans.
Oui, 2 ans. Donc, c'est un dessin animé français. Et bon, il essaie de faire ça, mais bon, c'est un peu compliqué, quoi, parce qu'il n'a peut-être pas les éléments qu'il faudrait. Mais en tout cas, moi, la chanson, je l'aime bien. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça fait une nouveauté aussi. Et puis, ça permet de le connaître lui aussi. Quoi, voilà.
Et il y a la version de Jazzy de Nicky Larson qu'on avait vu dans le film de Philippe Lachaud.
Ça, j'adore.
Évidemment, très classe. On voyait, je crois que c'était dans une soirée à Monaco dans le film, où d'un seul coup, Nicky passe devant toi et puis tu es derrière en train de chanter ta chanson.
Oui, puis il fallait surtout pas que je cite Nicky Larson, quoi.
Bah non.
Donc du coup, on a fait en sorte que... Donc ça dure pas très longtemps, mais bon, ça fait un petit clin d'œil sympa.
Et alors, tu me disais dessus, tu as mis aussi des covers que tu avais enregistrés, mais qui étaient enregistrés à l'époque où tu commençais ces génériques.
Oui, c'est-à-dire que lorsque je suis rentré chez AB, bon, il savait très bien que je venais de l'univers de la musique aussi. Bon, il m'avait engagé, Jean-Luc Azoulay m'avait engagé pour Dorothée, pour être son assistant, ce qui se passait d'ailleurs très bien. On est devenus très amis. Mais j'avais aussi une plage réservée à tout ce qui est musique, tout ce que je sais faire, entre guillemets, quoi. Et notamment, il y avait beaucoup de covers. À l'époque, chaque fois qu'il y avait un truc qui fonctionnait, paf, on faisait un cover.
Ouais, c'est la grande mode.
Et moi, ben, j'arrivais, je ne connaissais même pas le truc. On me disait, voilà, il faut faire ça. Et maintenant, je trouve que c'est pas si mal.
C'est des enregistrements d'origine ou tu les as refaits aujourd'hui?
Ah non, c'est d'origine.
C'est d'origine.
Ah oui, oui, bien
donc
sûr.
C'est des titres d'origine qu'on retrouve avec la voix d'origine, la présence d'origine, tout.
Exactement. Et c'est Gérard Salès qui était à la baguette, en fait, oui.
Flacubitus, qu'on avait vu sur TF1. Denver, donc reprise de la chanson de Peter Lorne. Tortue Ninja, pareil. La bande à Picsou de Jean-Claude Corbel, si je ne me trompe pas. Et ouais. Les trois petits cochons, que je connais moins, celle-ci. Mais voilà. Mais qui a peur du grand méchant loup, c'est ça, là?
Non, oui, c'est ça, oui.
C'est ça, bah oui, évidemment, classique. Ah, franchement, monsieur...
Il y a aussi Ricky ou La Belle Vie.
Alors oui.
Et ça, j'adore ce générique. Vraiment, c'est un de mes préférés, celui-là.
You, we are face to face.
C'est ça.
Ah, bah,
c'est
ouais.
Ça, ouais.
On adore Ricky ou La Belle Vie. Et alors, moi, je disais tout à l'heure, quand même pas mal, beau gosse, Jean-Paul Césarie. Quand même.
Oui, oui, mais bon.
Mais regardez-moi cette belle photo quand même. Regardez-moi, on va voir l'intérieur aussi.
Il y a l'intelligence artificielle.
Non, l'intelligence artificielle. Regardez-moi. Moi, ce que j'aime quand je te vois, et peut-être à l'époque où on te voyait au Club d'eau, moi, je me disais, je sentais quand même le garçon qui aurait préféré être ailleurs à ce moment-là, qu'habillé en imperméable sur le plateau avec un flingue à la main.
Non, mais je...
Et là, je te sens heureux. Mais à l'époque, je me disais...
Mais bien sûr, mais parce que ça a beaucoup changé, l'époque. Moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai fait ça presque à mon corps défendant, quoi, tu vois. Il me disait, bon, écoute, on a des trucs à chanter, c'est Minet qui les fait tous, est-ce que tu veux pas essayer? Alors, j'ai dit, bah, écoute, moi, je fais plutôt du variété rock. Mais
bon. Je fais pas Nick Carson, quoi.
Et du coup, je suis rentré dans la peau du personnage et après, j'ai dit, hey, c'est quand même pas si mal.
On y prend goût, hein.
Ça. Et puis maintenant, quand je vois l'engouement qu'il y a, mais je me dis, mais j'aurais été vraiment con de pas le faire, quoi, tout simplement.
Mais exactement. Et ça a donné évidemment des moments que, évidemment, tout le monde se souvient. Mais c'est vrai que Jean-Paul, sa voix a accompagné aussi les génériques, toute une... Plusieurs générations de gamins d'ailleurs. Hein.
Oui, ça a le mérite d'être diffusé, en plus multi-rediffusé, donc c'est bien sûr, on connaît tous.
Les filles, vous connaissez aussi un peu les chansons? Nicky Larson, vous connaissez
Pas tout.
Ah ouais, bah non, c'est là qu'on voit qu'elle est jeune.
Oui, mais je peux pas mentir.
Non, mais c'est bien, tu aurais pu faire genre, bah ouais, évidemment. Non, mais en fait, elle sait tellement que si elle dit oui, je vais lui demander de chanter, que.
Finalement,
je ne connais pas.
Mais tu vois, ce qu'il y a de nouveau quand même, moi je le vois depuis que je fais des événements bah, comme les conventions ou les festivals manga, ce qui est nouveau, c'est qu'avant, il n'y avait vraiment que la génération nostalgique, les 40, 50, il n'y avait que ceux-là qui venaient faire, demander une dédicace ou parler un petit peu avec moi. Maintenant, c'est les familles. Et, en fait, et les petits, là, c'est grâce aux parents, certainement, et ils connaissent les chansons et tout, et ils sont vraiment intéressés par ce qui se passe, quoi. Et ça me fait plaisir, tout ça, ouais.
Aujourd'hui, en convention, hormis évidemment les classiques, Nicky Larson, est-ce qu'il y a une chanson que tu prends du plaisir, même en tant que musicien, à chanter sur
Bien
scène,
sûr.
Plus que d'autres?
Moi, j'adore l'Académie des Ninjas. Ouais. Je sais que tu la connais, d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, Arnaud?
Oh là,
je vais devenir un vrai ninja, ah, voilà. Mon petit Nicolas. Ouais. Faut travailler,
faut t'appliquer, sans jamais te lasser. Faut tout apprendre, faut tout comprendre. Sans se laisser surprendre. Et puis enfin, un jour viendra où l'on sera fier de toi. Faut travailler, c'est ça la loi de l'Académie des Ninjas.
Où ? Au collège des ninjas, quand ça arrive sur TF1 après.
Oui, parce que là, l'anecdote, c'est que...
Avec le changement de pied.
Effectivement, Gérard Salès me dit, tu viens au studio, il y a un générique de dessin animé à chanter, un nouveau. J'ai dit, ok, j'arrive. De toute façon, je ne les connaissais pas. Et j'arrive, il me fait écouter ça, j'ai dit, mais j'ai déjà fait ça. Il m'a dit, mais non, mais tu vois, parce que maintenant, avant c'était sur la 5, maintenant c'est sur... Donc, on n'a pas à t'expliquer, de toute façon, tu fais ce que je te dis. Tu enlèves l'académie et tu marques, à la place, tu mets le collège.
Au collège. Voilà.
Donc, du coup, la séance a duré un quart d'heure.
Ça fait deux disques pour le prix d'un.
C'est ça.
Et ça fait deux disques pour le prix d'un. C'est vrai qu'elle est très réussie, parce que souvent... Il y avait des trucs qui étaient un peu mécaniques dans les chansons de AB. Et c'est vrai que celle-ci, on sentait que voilà, tu pouvais t'amuser avec les changements de pied et tout ça. Mais c'est ça qui est assez, qui est assez drôle. Et le public est au rendez-vous, parce que tu me disais que depuis que tu l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, les gens te contactent pour avoir accès et pouvoir se procurer l'album. Mais ça marche bien.
Très, très, très bien. Oui, il va falloir que je m'en occupe.
Parce que maintenant, je les envoie maintenant.
Maintenant que je... Donc, ils peuvent déjà le trouver sur Jean-Paul Césarie officiel.
Très bien.
Sur mon compte Facebook, sur Instagram aussi. Et puis après, on fera les envois et tout le monde sera servi.
Et alors, monsieur Jean-Paul Césarie, parce que je me souviens que moi, il y a 15 ans, hein, vous étiez revenu, je crois, sur la scène de Bercy quand il y a eu ce grand concert de Dorothée le 18 décembre 2010. Alors, on va apparaître une photo, mon cher... Est-ce que vous y serez l'année prochaine ou pas?
Non, je ne veux pas penser à ça. Mais
je ne veux pas y penser.
Je ne veux pas y penser parce que j'aimerais trop. Moi, je le dis, franchement. Je ne vois pas trop comment non plus. Maintenant, ils ont des nouvelles équipes. Je ne sais pas. De toute façon, c'est M. Azoulay qui est le maître.
Qui décidera.
Et un des maîtres.
Est-ce que tu as encore le trac quand tu vas sur scène aujourd'hui?
Bien sûr, je l'ai. Ouais. Là, je l'ai.
Mais ça se voit pas. Ça ne se voit pas du tout.
Non, je suis traqueur. Non, mais à Bercy, c'était super, parce que justement, ce qui a, la nouveauté qu'il y avait, c'est que moi, à l'époque où j'ai chanté ça dans le club Dorothée, c'était que les petits, hein, c'était vous.
Oui, oui.
Et il n'y avait que des voix d'enfants, tu vois, quand on, sur les chansons, ils chantaient avec moi. Et là, à Bercy, ce qui a été génial, tu vois, c'est que d'un coup, je n'étais pas habitué, et j'avais des grosses voix qui chantaient avec moi. Et là, j'ai eu le frisson, tu vois, ça, et ça m'a vraiment... j'ai été très, très ému, quoi. Ouais.
C'est la meilleure des reconnaissances.
C'est la meilleure des reconnaissances. Ah, oui. Le 4 et le 5 avril, en tout cas, l'année prochaine, Dorothée remonte sur scène.
C'est super pour elle.
16 ans après son dernier spectacle qui était à Bercy, avec notamment sa nouvelle chanson qui s'appelle « J'ai dans mes souvenirs ». Et puis, on imagine... à mon avis, un nouvel album devrait arriver d'ici là assez vite. Et puis, on espère surtout qu'on va continuer, cher Jean-Paul, à te voir sur scène parce que tu fais partie de ces artistes qu'on reçoit régulièrement dans cette émission. Et il y a toujours, toujours la même simplicité, générosité et gentillesse. Et moi, je prends un plaisir. Je t'ai reçu plein de fois déjà. Et à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé de t'avoir avec nous. Et donc, soutenir la sortie d'un de tes albums, voilà, même si tu nous en ressors encore régulièrement, on sera toujours là parce que voilà, t'es vraiment quelqu'un vraiment
merci
génial
beaucoup.
De ce métier.
Merci, merci.
Et c'est ça qui fait du bien. Les filles, vous nagez complètement là entre Terence Hill, Bud Spencer, les génériques du club Dorothée, la 5. Non,
j'aime bien, c'est intéressant en fait. Puis c'est un vrai débat que j'ai souvent avec des amis, se dire ok, bah, quand on aura des enfants, je préfère leur montrer des dessins animés soit de cette époque, soit du tout début de ma vie, plutôt que des dessins animés de maintenant. Et je trouve qu'il y avait autre chose dedans, il y avait totalement autre chose, ou des séries où il y avait une âme qui est moins là, je trouve. Et
pourtant, tu sais que cette époque-là, c'était des criés. Mmh.
Et, c'est ça qui est fou. Il y avait
une espèce de montée, de levée de bouclier, parce que c'était soi-disant
abêtissant.
Trop violent.
Ou abêtissant, évidemment.
Ou abêtissant, oui.
Et je ne sais pas si tu te souviens, chère Ophénia, mais à chaque fois qu'on mentionnait tes nombreux amis.
Ouais.
Qui t'accompagne sur les réseaux sociaux.
Ouais.
À chaque fois, je t'ai toujours dit un truc, t'inquiète pas, ça finira par passer. Je lui ai dit, moi, j'ai grandi avec l'époque de Dorothée, qui s'en prenait plein la tronche dans la presse, qui s'en prenait plein la tronche parce qu'elle était là pour les gamins et tout ça. Et je t'ai toujours dit, t'inquiète pas, ça va passer. D'autres ont essuyé les plâtres avant toi et que ça va passer.
Il faut que je la rencontre, en fait.
Il faut que tu la rencontres. Non, mais voilà, mais parce que...
Je la rencontre.
C'est typiquement ce que tu vis, malheureusement, avec les réseaux sociaux est décuplé parce qu'il n'y a personne autour de toi qui peut faire de filtre, finalement.
Ouais.
Mais finalement, ils l'ont vécu à d'autres époques. Chantal Goya a été pareil.
Exactement,
et tant d'autres.
Ouais.
Donc, on le gère comment quand on est une jeune femme de 25 ans? Ça va? Ça se passe bien aujourd'hui? Quand on a 800 000 personnes sur YouTube.
Ah, mais c'est un sacrilège. Vraiment, c'est... Non, mais c'est dur, hein, parce que quand on est... On doit se renforcer. Moi, je suis une jeune femme, donc... Enfin, c'est très, très compliqué. On n'est pas préparé. En fait, on est médiatisé d'un coup. On a tout d'un coup la lumière sur nous. Et on n'est pas...
On n'est pas prêt.
On n'est pas prêt, en fait. Et surtout, on n'est pas protégé, je trouve. Il y a beaucoup de personnes qui sont mises en lumière d'un coup. Ça a été mon cas. Et je suis très contente. Mais on n'est pas assez protégé. Quand il nous arrive quelque chose, qu'on subit du cyberharcèlement ou autre, ou qu'il y a des rumeurs ou des choses comme ça... C'est qui
personne.
On ne sait pas vers qui se tourner, en fait. Et c'est très compliqué. Donc, voilà. Mais c'est dur, mais il faut s'accrocher, quoi.
Et en même temps, il y a tellement de belles contreparties à côté.
C'est pour ça.
800 000, plus de 800 000 personnes maintenant sur ta chaîne YouTube tu accompagnes tous les soirs avec des lives, avec des libres antennes. Là aussi, alors, je suis pas en train de dire que le YouTube n'a rien inventé, effectivement, mais je me dis que tous ceux qui, toutes celles qui tapent sur ces gens-là, on a le droit de pas aimer. Moi, je sais pas ma clientèle non plus, mais je reconnais quand même que aujourd'hui, la libre antenne que tu fais le soir avec les jeunes qui t'accompagnent, bah à l'époque, on avait, il y avait Doc et Difool qui faisaient ça, il y avait des gens qui le faisaient à la radio. C'était juste le canal qui était différent, mais et tu t'éclates aujourd'hui.
J'aime trop parce que pour moi, c'est un moment où on se retrouve tous, on partage, c'est vraiment pur et bienveillant. Un truc tout bête, par exemple, c'est la première fois de ma vie, je n'ai jamais vu ça nulle part. Donc j'ai une radio libre où j'ai un numéro de téléphone qui n'est pas le mien, bien sûr, hein, que j'enclenche pile difficile. À ce moment-là. Et ils peuvent du coup téléphoner en direct. Et du coup, je les reçois. Il peut y avoir des très jeunes, des adolescents, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des parents aussi. J'ai eu des parents plusieurs fois. C'est incroyable parce qu'on a de tout. On a des plus petits qui vont dire « Je suis amoureuse d'un garçon, je sais pas comment faire. » Oh, mais ça, c'est mignon. Donc, on va pas parler de la même manière. On va s'adapter aussi. Il y a des parents aussi qui viennent, qui disent « Voilà, j'ai vu de la violence conjugale. » Il y a des choses de fou quand même.
C'est lourd.
Ouais, c'est quelque chose qui permet de libérer la parole. Et je dis toujours que les jeunes sont les adultes de demain et qu'il ne faut pas donner la parole que aux adultes. On peut aussi la donner aux jeunes et je vois pas.
Faut juste l'encadrer correctement.
Voilà, c'est ça, faut juste l'encadrer correctement. Moi, sur mes lives, je le dis souvent, il y a des psychologues qui regardent mes lives, donc je suis présidente d'honneur d'une association de lutte contre le harcèlement.
Mais tu sais que ça... Pardon, je suis désolé, voilà. je rebondis encore parce que j'ai Jean-Paul à droite et tout, et je me dis aujourd'hui, vous êtes obligés, vous aussi, de dire ça. Et je me souviens qu'à l'époque du Club Dorothée, on disait la même chose pour les dessins animés. On était obligés de dire, il y a des psys qui regardent les dessins animés pour passer à la télévision. Enfin, et je me dis, mais quand même, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse pour se dire... Alors, je comprends, c'est bien qu'on encadre, parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il n'y a pas de filtre. Donc, oui, il peut y avoir des abus en tout genre, et il faut protéger les jeunes.
Ouais.
Mais voilà, c'est aussi... C'est aussi un espèce de vivier qui est dingue, quoi. Dingue dans tous les sens du terme.
Exactement, mais je suis très, très fière. C'est une belle radio libre. Et puis, parfois, il y en a juste qui m'appellent pour me lire des textes.
C'est tout beau.
J'ai écrit un texte, je peux te le lire. Oui, vas-y. Ça peut être des poèmes, ça peut être plein de choses comme ça.
Alors, par contre, cette jeune femme a énormément de qualités. elle est adorable, elle est gentille, elle est professionnelle et tout ça. Mais par contre, ne lui confiez pas de rouleaux à pâtisserie. Ne lui confiez pas de trucs pour cuisiner. Elle fait des recettes de cuisine avec ses abonnés le dimanche après-midi.
Oui.
Et je pense que les aliments meurent deux fois. Une première fois en arrivant chez toi et une deuxième fois en passant entre tes mains.
C'est rare qu'on s'en sorte.
Qu'ils s'en sortent, toi tu t'en sors toujours. Mais quand je vois l'état de tes mains, je me dis que les pauvres...
Ouais, non, c'est vrai, c'est une cata à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, ça les fait rire. C'est tous les dimanches à 14h,
ouais.
On fait de la pâtisserie, on va faire des trompe-l'œil, on va faire plein de choses. Je prends des trucs bien compliqués.
Ah oui, ça se voit, oui.
Ça m'entraîne aussi.
Des fois, quand je vois des trucs, je lui envoie un message et je la chambre en plein live et tout. J'essaie de voir si je vais la perturber, mais elle n'y arrive pas, elle est imperturbable. En tout cas, c'était une année riche, évidemment, notamment un défilé... haut en couleur au Festival de Cannes, donc c'est pas dégueu, là aussi. Tout va bien.
Tout va bien.
Et un agenda qui sort pour la rentrée pour les gamins
en
précommande.
Et non, c'est aussi pour les adultes.
Et oui. Je vais pouvoir rentrer mes devoirs de vacances, qu'Arnaud va me filer.
Je l'ai fait en mode to-do list, parce que je trouvais que... en fait, j'en avais marre d'entendre les personnes, même les adolescents. Hein. Dès qu'ils ouvrent leur agenda, ils sont stressés. Ils ont la boule au ventre. Non, t'inquiète pas, ils ont un agenda. Parfois, il y a même des agendas qui sont imposés, t'imagines? Et moi, du coup, dans cet agenda, t'as des conseils tous les jours. J'ai vraiment fait un. Donc,
c'est
avec
un almanach, c'est comme les almanachs qu'on avait
possible,
ouais. Avec Émile Leclerc ou Denis Fabre. Oh, les vieux cons, ça fait vieux cons, c'est vrai.
Est-ce que c'est des recettes que tu inventes toi-même ou qui existent?
Dans le livre?
Oui.
Alors,
ou à la télé?
Ou à la télé, oui.
À la recette le dimanche, c'est. Non, c'est des trucs qui existent déjà. Mais parfois, je prends ChatGPT pour essayer de. d'inventer des trucs. Par exemple, j'ai inventé des cookies frits. J'aurais pas dû essayer. C'était terrible. Mais bon, moi, je teste des choses.
Non, mais c'est bien. Et puis, ça crée ces univers-là. Et je trouve qu'à une époque où on le dit beaucoup dans cette émission, on milite beaucoup pour tout ce qui était programme incarné. Et c'est vrai que c'est intéressant de le retrouver avec les créateurs de contenu. Lola en fait partie aussi. On va le voir dans un instant pour finir cette émission. Mais c'est intéressant d'avoir cette jeune génération qui, finalement, s'empare de concepts qui ont été largement faits par d'autres générations avant et de voir que, finalement, les recettes, elles étaient peut-être pas si mal que ça et que ça fait plaisir de les voir se réapproprier, que ce soit des concepts, des chansons ou des films avec tous nos invités. Restez avec nous parce qu'on va terminer dans cette émission dans un instant avec Lola pour ses conseils littéraires, mais petite pastille souvenir encore une fois de la 5. Oui, on aime bien mettre en avant des génériques dans cette émission. On va avoir un tout petit extrait dans un instant, c'est à Lola pour finir cette émission, mais regardez, c'est une série bien kitsch là, je vous promets, regardez. On voit qu'on est à l'époque de Tron, de Disney. Ottoman, un petit génie de l'informatique dans un commissariat de police qui décide d'utiliser ses compétences en informatique pour créer Ottoman, né de, ouais, de l'intelligence artificielle finalement.
Oui, oui, il s'est passé un truc en antenne avec Loja, il me dit « Waouh, les effets spéciaux !» J'ai dit « Oui, c'est entre Trône et la foire du Trône. » Ça résume pas mal la série, je pense.
Et j'adore.
Voilà, le l'acteur principal, c'était le fils quand même de
Lucille Ball.
De Lucille Ball, voilà, c'est ça. Il sait tout.
Et alors, petite anecdote, parce que c'est ça qui est génial.
Et
Desi Arnaz, qui était le producteur, Lucille Ball et Desi Arnaz étaient les producteurs de Star Trek, voilà. Notamment. Ah. Et surtout, ils ont eu une sitcom dans les années 50 qui s'appelait I Love Lucy. Mm-hmm. Et I Love Lucy, alors c'est ça l'état amusant, c'est que I Love Lucy, donc Lucille Ball, productrice, grande féministe et tout, a accouché, enfin a été tombée enceinte pendant le tournage de I Love Lucy. Et donc dans la série, ils lui ont fait aussi accoucher d'un enfant, mais elle était enceinte de son enfant. Cet enfant qui est là maintenant, le comédien, c'est lui le flic qui joue, c'est son seul rôle, je crois.
J'ai pas connaissance d'autres.
J'ai pas d'autres connaissances d'autres.
La maison de production s'appelait Daisy Lou parce que c'était Daisy Arnaz et Lucy Lou et lui.
Voilà. Et lui c'est.
Voilà. Quand on voyait c'était écrit Daisy Lou, bah ça c'est.
Et ils ont fait Les Incorruptibles aussi, je crois, Les Rues de San Francisco.
Ils en ont fait beaucoup.
Ouais. Et puis ils ont été ensuite rachetés, je crois par. Je crois qu'elle a été rachetée par la MGM, la société qui a produit le Mary Tyler Moore ou MTM.
Très certainement.
La société de Mary Tyler Moore, qui est une grande dame de la sitcom des années 70.
Ah oui, bah, peut-être bien oui, avec le petit chat qui
le petit chat
dans le logo.
Ouais. Voilà exactement. On arrive à la toute fin de cette émission, Malola, avec toi, qui nous a ramené 4 conseils à lire de livres pour la plage.
Tout à fait. Alors, je ne vais pas prendre 20 minutes.
Non, tu as 2h35.
Super. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Non, je voulais vraiment présenter...
Non, parce que tu deviens intéressante à partir de 2h35. C'est pour ça qu'on va...
Super. Alors, rendez-vous dans 3 heures. Non, je voulais parler de livres pour l'été parce que... Il y a pas mal de personnes qui me demandent des conseils de lecture pour l'été, que ce soit, alors j'ai essayé de faire 2 petites catégories, des lectures pour essayer de reprendre un peu la lecture, des livres qui sont courts, qui sont drôles, qui sont émouvants, qui sont percutants, qui redonnent en fait envie de lire, et des livres qui, pour ceux qui partent pas tout de suite en vacances ou qui partent pas en vacances, permettent quand même de voyager et de se faire des petites vacances à travers la lecture. Le premier conseil moi, que je donne toujours, c'est Fabrice Caro. Vraiment à chaque fois, quand on me parle de littérature et qu'on me dit, voilà, je suis bloquée, j'ai une panne de lecture, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi lire. À chaque fois, je dis Fabrice Caro. Parce que c'est juste les livres les plus drôles qui existent, avec beaucoup de dérision, beaucoup d'auto-dérision. Je conseille vraiment tous les livres de Fabrice Caro. Mais celui-là en particulier, qui s'appelle Samouraï, qui est génial. C'est un homme qui s'appelle Alan et qui écrit des livres. Et sa copine lui dit, bon, au bout d'un moment, vous faites un effort. Essayez d'écrire un livre sérieux, un livre qui est vraiment intelligent. Donc il se dit, j'ai tout l'été pour écrire un livre sérieux et plaire à sa copine. Et donc, il décide en même temps de regarder un peu la piscine de ses voisins pendant qu'ils partent en vacances et donc de la surveiller. Sauf que, bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. La situation va dégénérer, la piscine va devenir verte. Bref, je n'en dis pas plus. Mais ce qui devait être une petite période d'écriture va devenir une catastrophe totale. Et il y a toujours l'humour de Fabrice Caro. Et aussi des bandes dessinées qui sont géniales de Fabrice Caro. Bref, il y a plein de choses, même des adaptations en film et tout.
Bien,
sont hyper sympas. Non, bravo. Hein. Oui, on fait une belle équipe. Hein.
Moi, je l'ai lu, j'ai adoré.
Ah, il est génial. Hein. Trop bien. Donc, pour reprendre la lecture, c'est vraiment un très chouette texte. Un autre texte, format hyper court, mais un texte qui est très émouvant. Qui est hyper condensé, qui s'appelle Le dernier thé de Maître Sault de Cyril Gély, qui vient de sortir en poche aux éditions Point, qui est un voyage qui est juste magnifique. On part dans le Japon à la fin du 19e. Franchement, c'est trop beau.
C'est pour toi.
Et c'est entre les samouraïs, donc je fais un petit lien avec le livre. Oh, t'as vu la transition?
Mais tout est construit. On a l'impression que rien ne va dans cette émission, mais en fait, il y a un point là où.
Il y a un fil. Donc, c'est entre les samouraïs. Et c'est une jeune fille qui s'appelle Ibuki, qui vit donc dans ce Japon du 19e, qui est en pleine transformation à cette époque-là. Les samouraïs sont en train de disparaître, le Japon est de plus en plus moderne, et donc il y a l'armée qui arrive, etc. Et elle, son rêve, c'est de devenir samouraï. Sauf qu'il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils sont en train de disparaître. Le deuxième problème, c'est que c'est une femme, et que donc une femme ne peut pas devenir samouraï.
Oh, on n'a pas idée.
Voilà, l'idée n'était pas... elle va aller jusqu'au bout de ses rêves et elle va décider de partir, de quitter son père, qui a une brasserie de saké au Japon. Et
aller dessin est très, très beau.
Ah, c'est magnifique. C'est et aller auprès de ce maître, le maître Sault, qui a décidé de ne plus utiliser son sabre. Et tous les deux, c'est une histoire qui est magnifique. Elle va se déguiser en homme. Et lui, je ne dis rien, mais lui, il va savoir que, très rapidement que c'est une femme et il va quand même la prendre sous son aile. Et c'est une histoire qui est belle, c'est court, c'est magnifique. Et ça fait voyager. 2 plus courts, je fais la présentation.
Non, vas-y, c'est parfait.
un livre qui a été, je pense, une de mes premières découvertes il y a plus de 4 ans, quand j'ai commencé à présenter des livres. C'est Ultramarin de Mariette Navarro, donc chez Quidam Éditeur. Ça peut se pitcher en très très peu de temps, mais c'est un livre que j'aime beaucoup beaucoup. Déjà parce que c'est très bien écrit. Et on est au milieu de l'océan Atlantique, dans un bateau qui fait une traversée. On est avec l'équipage, etc. On découvre un peu l'équipage. Et puis l'équipage, au bout de plusieurs jours de traversée, se dit « Bon, on a travaillé quand même pas mal de temps, là, on va s'offrir une petite pause en pleine mer. » Et donc, ils décident de jeter l'ancre et de partir se baigner en plein milieu de l'océan Atlantique. Bon, dans l'équipage, ils sont 20. Quand ils vont remonter de cette petite baignade où ils se sont amusés, ils sont un peu fait peur, bah, ils seront 21. Et ils ne comprennent pas qui est cette personne qui a pu remonter pendant cette baignade au milieu de l'océan Atlantique. Et on ne sait pas comment c'est possible. Et donc, il y a une enquête qui va s'ouvrir.
Voir.
Ah, voilà, tu vois,
c'est voir. J'adore
ça. Ça m'intéresse, moi, en vrai.
Et c'est là, c'est vraiment, vraiment chouette. Et je conseille tous les autres livres de Mariette Navarro. Parce que
tu peux pas faire des livres audio, genre tu nous les racontes.
Oui, on t'emmènera sur la page avec nous. Rendez-vous en podcast.
Et le dernier, c'est un livre de Rémi Baye. Donc, Les enfants de la crique. Ça, je pense que si un livre qui nous fait le plus ressentir cette impression d'être en vacances au bord de la mer, c'est Les enfants de la crique, donc aux éditions Le Bruit du Monde. On va dans une crique qui s'appelle la crique de Longomey, et on va découvrir la vie d'une communauté dans cette crique, avec les anciens qui mettent vraiment la nature au cœur de tout. Et ce qui est génial dans ce livre-là, c'est que vraiment, on est au cœur de la nature, on entend le vent passer dans les pins, on voit la mer, on voit les animaux, etc., les poissons, enfin, on est vraiment en vacances dans ce livre-là. Et donc, c'est l'histoire d'une petite amourette entre une petite fille...
C'est bien
ce
petit mot, on l'emploie plus, joli, c'est génial.
entre Nine et Coco. Donc Nine qui veut partir de cette île, sauf que dans cette île-là, en fait, ça se fait pas. On grandit dans cette île, dans cette crique, et on ne part pas. C'est-à-dire qu'on fait les activités des anciens, et on a une famille, on se marie, etc. Et donc on ne part pas de cette crique. Elle en peut plus, elle a envie de découvrir le monde. Et donc malheureusement, le moment où elle va partir de cette crique, la crique de Longomey, une catastrophe va arriver sur cette île et va bouleverser l'écosystème.
Un bateau avec 21 personnes arrive sur l'île. Non,
tout se mélange avec un samouraï qui arrive en plein milieu. Et donc, c'est vraiment, je salue la maison d'édition Le Bruit du Monde.
Et qui, la pochette est encore une fois très.
La couverture est très magnifique. Belle. Ils font toujours des couvertures qui sont très belles. C'est une maison d'édition qui est basée à Marseille, alors que beaucoup de maisons d'édition sont à Paris. Eux, ils sont à Marseille, ils font un travail du texte qui est magnifique.
Alors, pour info, ben, je ne sais pas si ça a un rapport, mais. À Fort-Calquier, donc pas très loin de Marseille, c'est dans les Alpes d'Haute-Provence, il y a une communauté qui s'appelle Longomey, qui existe depuis 40-50 ans, quoi. C'est incroyable. Et ils ont racheté un peu tout autour, et ils font leur truc eux-mêmes, quoi.
Exactement. Bah, c'est cette crique-là, exactement. Ah, c'est la crique de Longomey avec cette communauté qui évolue.
Voilà le livre à lire pour cet été.
Très connu, très très connu.
Tu vois, tu pouvais pas tomber plus. franchement, là, t'as du pif. Je rappelle les 4 conseils de lecture de l'été. Les enfants de la crique. Donc, si vous connaissez le coin de Marseille ou de Fort-Calquier, vous pourrez retrouver évidemment cette histoire. Ultramarin, voilà, aussi, qui est disponible. Et puis, 2 livres, évidemment, plus petits, mais tout aussi passionnants. Le dernier été de Maître Soho et Samouraï. Évidemment, les 4 derniers livres de la saison.
Si vous avez une panne de lecture ou que vous ne savez pas par quoi commencer, un Fabrice Caro, ça débloque toujours les pannes de lecture. Et c'est une merveille pour pouvoir lire des textes qui sont drôles. Il y a un de ces derniers textes qui va sortir dans pas longtemps pour la rentrée.
Donc vous savez, là, vous avez 4 livres à lire. Donc pendant que vous les lisez en même temps, un petit CD que vous mettez derrière. Pour écouter des chansons avec la belle voix de Jean-Paul Césari. De la main qui vous reste, vous remplissez la participation au livre de Philippe Lombard sur les aventures.
Et vous mangez des haricots.
Et vous mangez des haricots. En même temps, et puis ensuite, une fois que vous avez fini de la main gauche, vous passez à la main gauche, et vous remplissez le financement participatif de nos années au pays de Croque-Vacances avec Arnaud Magnier. Les 2 livres à ne pas manquer en fin de saison. Et j'étais ravi de finir cette année avec vous, ravi de recevoir pour la première fois Philippe Lombard. Je suis ravi de pouvoir plus parler en détail de Terence Hill Bassmaster à la sortie du livre. Et j'embrasse d'ailleurs Guillaume Ledicèze et Claude Gaillard qui vous accompagnent tous les 2 dans cette grande aventure. Ouais. Je remercie vraiment Jean-Paul de toujours répondre vraiment présent à chaque fois qu'il peut venir. Et c'est toujours un bonheur de t'accompagner, vraiment. Je le redis encore une fois parce que je prends beaucoup de plaisir. Merci au fait d'être revenu juste nous faire ce petit coucou de fin d'émission. Et je voudrais qu'il y ait une personne qui prenne un micro en régie. c'est mon copain Robinson. Est-ce qu'on va réussir à prendre le micro T'entends, Robinson. Robinson, mon ami Robinson. Je voudrais juste finir cette émission. C'est la dernière du club. On va se retrouver évidemment en septembre avec encore plein de belles choses. Mais c'était aussi la dernière de Robinson avec nous.
Oh, mais non.
Merci,
après plus de 3 ans à réaliser mes émissions en studio, je voudrais te remercier d'avoir accompagné cette émission, te remercier d'avoir été là chaque semaine à supporter nos délires à te faire découvrir des univers complètement dingues, te remercier pour le travail que tu as fait. Parce que c'est pas évident de se frotter à des choses comme ça qui sont nouvelles. Te dire que voilà, t'as assuré grave, mec. Ouais, et que j'espère beaucoup. Que tu vas trouver ton épanouissement où que merci tu iras beaucoup. L'année prochaine. Et tu seras toujours le bienvenu, évidemment, dans le coin.
Ah, merci beaucoup. Je suis hyper touché. Vraiment, ça a été un énorme plaisir depuis 3 ans de travailler avec toi et toute l'équipe et tous les gens que tu m'as présentés. Bah, je suis un peu ému, là, mais merci.
Mais on avait vraiment envie de te faire ce petit clin d'œil parce que voilà, l'émission continue avec vous l'année prochaine, les amis. Je suis ravi que vous soyez là pour nous. Et merci d'avoir été un membre de cette famille pendant 3 ans, mon Robinson.
Merci beaucoup. Et je suivrai les aventures.
Tu suivras les aventures, t'inquiète pas, t'auras toujours ta place.
J'emmène la loi des séries en Asie avec toi.